France Culture.
Présenté ce midi par Julie Paco. Bonjour Julie.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. L'Iran exhorte les autres pays à s'abstenir de toute action pouvant étendre la guerre tout en continuant de frapper ses voisins du Golfe. Symbole de la propagande du régime iranien qui poursuit la répression de son peuple, témoignage dès le début de ce journal. De propagande, il est aussi question à la Maison-Blanche où Donald Trump assure avoir détruit 100% de la puissance militaire iranienne, tout en appelant les ressortissants américains à quitter l'Irak, cible des frappes iraniennes. Une guerre au coût exorbitant et qui booste les ventes d'armes à travers la planète. Des armes en premier lieu américaines. On en parlera avec notre invité Julien Malizard, titulaire de la chaire économie de défense de l'Institut des hautes études de défense nationale. Enfin, nous ferons un point sur les élections municipales et le taux de participation à la mi-journée, en très légère hausse par rapport au premier tour de 2020 dans un contexte de crise sanitaire. Malgré la guerre et les frappes israélo-américaines quotidiennes, le régime iranien tient. Les gardiens de la révolution jurent même de traquer et de tuer le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qualifié de criminel tueur d'enfants. Un régime iranien qui continue aussi de réprimer son peuple et procède à des vagues d'arrestations de personnes présentées comme des espions. 20 Iraniens ont été arrêtés dans la province d'Azerbaïdjan occidental, dans le nord-ouest du pays aujourd'hui, pour coopération présumée avec Israël. En Iran, où Internet est coupé depuis 2 semaines, les Iraniens tentent donc, comme ils le peuvent, de rester en contact et de s'informer. Malgré la propagande, Sandrine Etoua-Handeg a ainsi réussi à joindre un Iranien d'une 30aine d'années.
Ce qui préoccupe le plus Bardia, un pseudonyme, c'est d'être toujours coupé du monde. Seule la télévision fonctionne.
Ce n'est que de la propagande. Si on les écoute, ils ont détruit la moitié du porte-avions américain USS Abraham Lincoln, réduit Tel Aviv en cendres et abattu plein de chasseurs américains F-35. C'est ridicule.
Il évoque les multiples SMS envoyés quotidiennement par le pouvoir islamique qui menacent directement ceux qui oseraient critiquer le régime.
Ils disent « Nos ennemis doivent savoir que s'ils vont encore manifester dans la rue, on va les massacrer et ce sera pire qu'en janvier. »
Ce commercial explique qu'à cause de la répression, il travaille de chez lui, sort parfois faire quelques courses en évitant les postes de contrôle qui quadrillent Téhéran.
Il y en a de plus en plus. Ils y tuent des gens. Mais dans les rues, quelque chose a changé. Pendant 47 ans, les gens chuchotaient quand ils voulaient critiquer le régime. Je me suis assis dans un café l'autre jour et j'écoutais les conversations autour de moi. Les gens parlaient à voix haute et clairement de leur soutien aux frappes américaines et israéliennes. Je n'arrivais pas à y croire.
Et d'après Bardia, aujourd'hui en Iran, la peur a changé de camp.
L'Iran, dont le chef de la diplomatie Abbas Araghchi exhorte les autres nations à s'abstenir de toute action pouvant étendre la guerre tout en continuant d'attaquer dans le même temps ses voisins du Golfe Persique. De fortes déflagrations ont encore retenti ce matin à Manama, au Bahreïn, faisant 2 morts. Bahreïn dit avoir intercepté 125 missiles et plus de 200 drones iraniens depuis le début de la guerre. L'armée iranienne qui affirme par ailleurs ce midi avoir mené de puissantes attaques de drones en Israël, notamment contre une unité de police. Alors si Donald Trump se targue d'avoir détruit à 100% la puissance militaire iranienne, Téhéran et ses proxys, ces groupes armés qui lui sont affiliés, parviennent toujours à frapper des cibles. Les autorités irakiennes alertent ainsi sur des frappes répétées aux abords d'une prison de djihadistes de l'organisation État islamique près de l'aéroport de Bagdad, en Irak, où l'ambassade américaine a de nouveau été visée par des attaques de drones hier. En conséquence, les États-Unis appellent leurs ressortissants à quitter d'urgence le pays. Camille Magnard.
L'attaque sur l'ambassade a fait 3 morts et quelques heures plus tard, c'est l'aéroport de la capitale irakienne qui était touché alors qu'il abrite des troupes américaines. Le consulat des États-Unis à Erbil, dans le Kurdistan irakien, a également été pris pour cible. Des tirs de drones, de missiles aussi, lancés par des groupes armés irakiens alliés du régime de Téhéran. Le plus actif en ce moment semble être les brigades du Hezbollah, visées vendredi soir par une frappe américaine et qui a donc rapidement et fortement riposté. Dans ces conditions, l'ambassade des États-Unis a envoyé des consignes très claires à ses ressortissants. N'essayez pas de vous rendre dans les représentations américaines d'Irak devenues trop dangereuses, mais fuyez le pays par la route via les pays voisins, chacun avec ses propres moyens. Car, je cite le communiqué de l'ambassade, les attaques menées par les milices pro-iraniennes représentent désormais une menace trop importante attentes à la sécurité publique en Irak, signe qu'après 2 semaines de guerre, le pouvoir de nuisance de l'Iran et de ses alliés, au-delà des frontières iraniennes, est toujours bien réel.
Camille Maniard, correspondante France Culture aux États-Unis, où Donald Trump cherche toujours un moyen de rétablir la circulation dans le stratégique détroit d'Ormuz, pressant plusieurs pays, dont la France, d'envoyer des navires militaires pour escorter les pétroliers. La Corée du Sud dit examiner ce matin de près cette demande, tandis qu'Israël continue ses raids sur le Liban. Elles ont tué 4 personnes la nuit dernière dans un immeuble résidentiel de Saïda au sud du Liban. Les autorités libanaises, qui déplorent plus de 800 morts depuis le début du conflit, dont 100 d'enfants, ont formé par ailleurs une délégation prête à négocier avec Israël la fin de la guerre qui l'oppose au Hezbollah pro-iranien depuis le 2 mars. Non, aucune négociation directe n'est prévue, affirme le gouvernement israélien à l'instant, qui vient par ailleurs d'approuver une enveloppe de 827 millions de dollars pour des achats militaires d'urgence. Car s'il y a bien un gagnant dans ce conflit au Moyen-Orient, mais aussi dans la guerre en Ukraine, c'est l'industrie de l'armement. Les exportations d'armes s'envolent, d'après le dernier rapport de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. Bonjour Julien Malizard.
Bonjour.
Vous êtes titulaire de la chaire économie de défense de l'industrie des hautes études de défense nationale. Merci d'être avec nous sur France Culture. Alors ce rapport nous apprend notamment que les flux mondiaux d'armes ont augmenté de 10% au cours des 5 dernières années, que l'Europe a plus que triplé ses importations en achetant des armes en grande partie américaines. Les États-Unis accroissent donc leur domination du marché.
Effectivement, la part de marché des États-Unis dans les exportations mondiales telles qu'elles sont mesurées par le CIPRI a augmenté, elle est passée de 36% à 42%. Donc on a un accroissement assez substantiel de ces exportations, même si, quand on regarde dans le détail, les principaux clients de l'industrie américaine restent le Proche et le Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite en premier lieu, et puis... La méthode du CIPRI fait qu'elle a aussi compté les livraisons d'armes à l'Ukraine, qui ne sont pas des exportations au sens classique du terme, mais plutôt un don. Mais on a bien des transferts d'un pays à l'autre. Et donc l'Ukraine apparaît ici comme le deuxième bénéficiaire des échanges au niveau des États-Unis.
La politique quelque peu erratique de Donald Trump, la géopolitique erratique plutôt, n'a pas donc de conséquences sur la suprématie américaine en matière d'armes.
Non, du tout. Et en fait, le point essentiel, c'est que l'industrie américaine est extrêmement dominante dans les classements internationaux. Sur les 100 premières entreprises mondiales de défense, il y a plus d'une quarantaine d'entreprises américaines. Et quasiment les 5 premières, à chaque fois depuis une quinzaine d'années, sont les entreprises américaines. Donc le marché américain est très, très large. C'est le premier marché d'armement au monde. Et les pays qui s'associent aux États-Unis, historiquement, ont toujours cherché à affermir leur partenariat, leurs alliances avec les Américains. Et acheter des équipements auprès de l'industrie américaine était vu comme étant une façon de s'intégrer davantage avec les États-Unis dans ce réseau d'alliances.
Alors, l'Ukraine n'est pas le seul destinataire. De nombreux pays, notamment européens, renforcent leur capacité militaire face à la menace de la Russie. Qui en importe le plus aujourd'hui ?
Alors, les principaux importateurs, alors il y a le cas ukrainien dont on a un petit peu parlé, qui est atypique, qui est aujourd'hui le premier importateur mondial, mais dans le cadre de ses dons dans la guerre qu'elle subit face à la Russie. Historiquement, les principaux importateurs sont l'Inde, qui est le numéro 1 en tendance historique, et dont la Russie est le principal partenaire commercial historiquement. Et puis après, on va retrouver beaucoup de pays de Proche et du Moyen-Orient et de pays d'Asie du Sud, Asie du Sud-Est, qui sont historiquement les pays où les budgets de défense ont le plus vite augmenté. Mais si on regarde un peu dans le détail les nouveautés, finalement, c'est la part croissante que vont prendre un certain nombre de pays dans ces importations. Au niveau européen, ce qui n'était pas le cas par le passé, je pense ici à la Pologne, je pense aux Pays-Bas, à l'Allemagne, à la Grèce, à la Norvège, qui remontent dans les classements et qui deviennent des importateurs plus importants compte tenu de leur effort de réarmement que ces pays entreprennent depuis depuis 2022.
Alors l'industrie française hein, dans cette course au réarmement n'est pas en reste. Elle est la deuxième exportatrice mondiale et on le voit, elle se substitue parfois aux États-Unis pour fournir des moyens de défense. Un exemple, l'Ukraine va recevoir un système de défense aérien franco-italien cette année, annonce Volodymyr Zelensky aujourd'hui, comme alternative au système américain Patriot. Comment vous expliquez ce dynamisme des ventes françaises ?
Alors, il y a effectivement un dynamisme qui est en cours depuis, on va dire, une grosse dizaine, une quinzaine d'années. Il y a des raisons structurelles. La principale, c'est que les équipements français sont aujourd'hui à maturité et il y a des best-sellers, notamment l'avion de combat Rafale, qui est exporté depuis une dizaine d'années et qui est aujourd'hui pleinement opérationnel et qui a éprouvé ses capacités sur le champ de bataille. Et ça, c'est vrai que ça pousse à l'exportation et à la bonne place de la France dans ce classement. Mais il y a aussi des raisons conjoncturelles, c'est-à-dire que les pays aujourd'hui clients de la France sont des pays qui ont des besoins extrêmement importants. Les budgets de défense sont en très forte hausse depuis un certain nombre d'années. Et donc, effectivement, la France accompagne cette trajectoire de fourniture d'armes, même si il faut quand même relativiser un petit peu, la France est plutôt un fournisseur de compléments par rapport aux grands fournisseurs que sont historiquement les États-Unis et la Russie, même si aujourd'hui la Russie voit sa deuxième place, la France a pris la deuxième place de la Russie dans le classement international, alors que la Russie était historiquement beaucoup plus haute dans le classement, mais c'est lié à la guerre qu'elle mène en Ukraine, et donc elle a privilégié la production d'équipements pour ses forces armées plutôt que les livraisons dans des exportations avec des pays partenaires.
Merci beaucoup pour votre éclairage, Julien Malizard. Je rappelle que vous êtes titulaire de la chaire économie de défense de l'Institut des hautes études de défense nationale. Merci également à Loïs Guérin pour la préparation. Vont-ils se rendre aux urnes, les 48 millions d'électeurs français ? La participation est bel et bien l'enjeu principal des élections municipales aujourd'hui, 6 ans après un précédent scrutin en pleine crise sanitaire. Bonjour Chloé Geffroy.
Bonjour Julie.
Alors justement, les premiers chiffres de participation viennent de tomber il y a une demi-heure. La participation s'élève à 19,4% à midi.
Un chiffre du ministère de l'Intérieur en très légère hausse par rapport à 2020 où seuls 18,4% des inscrits s'étaient rendus aux urnes à la mi-journée. Un scrutin marqué à l'époque par la crise sanitaire qui avait massivement dissuadé les électeurs, notamment les plus âgés. Seuls 4 Français sur 10 avaient voté et un taux d'abstention record, 55% au premier tour, 58% au second, environ 20 points de plus qu'en 2014. Si l'on compare justement au scrutin de 2014, la participation cette année est nettement plus faible, taux de 23% il y a 12 ans à la mi-journée. Alors même si les élections municipales sont traditionnellement marquée par une participation assez élevée, supérieure aux législatives. Depuis 40 ans, on vote moins. Dans les années 80, par exemple, 8 Français sur 10 se mobilisaient. Cette consultation, parmi les plus populaires de la République, perd des électeurs qui ont encore plusieurs heures devant eux pour aller voter. Fermeture des bureaux de vote en métropole ce soir à 18h, 19h ou 20h dans les grandes villes.
Chloé Geffroy, on vous rappelle cette émission spéciale à suivre sur France Culture dès 19h30 autour de Jean Lemarié et Astrid de Villene. On termine ce journal par un espoir lié à un nouveau traitement préventif qui promet de révolutionner la lutte contre le sida, peut-être même de stopper la pandémie. Le lenacapavir, une injection d'antirétroviraux à longue durée d'action, développée par un laboratoire américain. Le lenacapavir est déployé depuis le début de l'année dans plusieurs pays africains, à commencer par l'Afrique du Sud, pays le plus touché par le VIH où plus de 8 millions de personnes sont séropositives. Alors le problème, c'est que ce traitement coûte pour l'instant extrêmement cher. Winnie Claret a rencontré les premières personnes à avoir reçu le lenacapavir dans un township du Cap.
C'est dans les camions arc-en-ciel de la Fondation Desmond Tutu pour la Santé que sont délivrées les premières doses de lenacapavir à Philippi, township de 200 000 habitants. Pacamama Pukata est l'une des infirmières.
Voici notre clinique mobile où l'on délivre les produits préventifs comme le len dont tout le monde parle en ce moment. Ceux qui ont reçu leur première injection sont très contents.
Okoulé a 18 ans et prend des antirétroviraux depuis ses premières relations sexuelles pour se protéger du VIH. Elle vient de recevoir sa première injection de lenacapavir.
Le lenacapavir est bien mieux. C'est seulement une injection tous les 6 mois au lieu d'une pilule tous les jours. Ça m'arrivait d'oublier.
Luciano est aussi l'un des premiers à avoir reçu le nouveau traitement.
J'ai rencontré une fille qui est séropositive, mais je ne veux pas rompre avec elle à cause du VIH. On attendait le lenacapavir depuis des mois.
La Fondation Toutou a reçu 1500 premières doses pour tester le lenacapavir au Cap. Suivront les 450 000 promises au gouvernement sud-africain par le Fonds mondial de lutte contre le sida. C'est trop peu, selon la présidente de l'association, Linda Gale-Baker.
C'est une goutte d'eau dans l'océan. Si on veut avoir un impact, il va en falloir plus. Mais depuis le retrait du programme américain PEPFAR, les dons sont trop faibles.
Un an après l'arrêt de l'aide américaine décidée par Donald Trump, l'Afrique du Sud est loin d'avoir retrouvé des moyens équivalents pour lutter contre le VIH.
Winnie Claret, correspondante de France Culture en Afrique du Sud. Le temps restera globalement ensoleillé aujourd'hui, excepté sur le nord-ouest. Il fera entre 8 et 12 degrés sur l'est du pays, 11 à 14 sur l'ouest. C'est la fin de ce journal préparé avec Alix Forgeau et Anthony Thomasson à la technique.